Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous. Votre émission santé, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Malgré le confinement, nous restons mobilisés pour vous informer, pour répondre à toutes les questions médicales que vous vous posez sur cette épidémie de coronavirus. Alors au programme aujourd'hui, nous appellerons d'abord le professeur Anne-Claude Crémier. Elle est infectiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Avec elle, nous ferons le point sur la situation épidémique. Certes, le nombre de cas en réanimation semble diminuer, mais pourquoi celui des décès recensés chaque jour semble lui rester stable et élevé. Elle nous donnera son avis et puis elle nous expliquera aussi pourquoi l'Académie de médecine dont elle fait partie recommande de façon urgente que toute la population porte des masques et pas à partir du 11 mai. Il faut le faire dès aujourd'hui selon ses experts. Après ça, nous nous intéresserons aux animaux domestiques. Deux chats à New York viennent encore d'être dépistés positifs au coronavirus. Alors, les animaux sont-ils à risque vraiment d'être contaminés ou même de nous contaminer? Nous ferons le point avec Gilles Salva. Il est directeur de la santé et du bien-être des animaux à l'agence sanitaire l'ANSES. Enfin, vous le savez, dans Sans Rendez-vous, on essaye chaque jour de prendre soin de vous. Et aujourd'hui, on va essayer de prendre soin du cœur des femmes. D'abord, avec cette alerte des cardiologues qui les ciblent tout particulièrement. Les femmes ne doivent pas attendre la fin du confinement pour écouter leurs symptômes. La cardiologue Claire Mounier-Veillet nous expliquera ce que cela veut dire. Et bien sûr, elle nous donnera aussi plein de conseils pour chouchouter son cœur au féminin. Et puis, pour finir cette émission, comme tous les jours, on retrouvera Catherine Blanc, notre sexologue, qui va nous parler aujourd'hui d'éducation sexuelle avec nos ados.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone, professeur Anne-Claude Crémieux, pardon,
oui.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue, excusez-moi, j'ai écorché votre nom juste avant, donc c'est Anne-Claude Crémieux, pardon. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Saint-Louis et membre de l'Académie de médecine. Alors justement, on va commencer par cet avis de l'Académie qu'on sent peut-être un peu exaspéré, je trouve, dans ce dernier. Vous dites notamment, arrêtons d'attendre le 11 mai pour que toute la population porte des masques. Expliquez-vous.
Oui, c'est logique. Effectivement, il y a encore des contaminations. La situation va mieux, mais des chaînes de transmission persistent. Or, on le sait, plus il y aura de cas au moment où on va déconfiner, et plus le risque de rebond est important. Donc, l'objectif de l'Académie, c'est de dire aujourd'hui, il faut tout faire pour éteindre le feu, c'est-à-dire en réalité qu'il n'y ait plus de contamination. Et pour ça, il n'y a pas 50 000 façons. Il y a isolé les personnes infectées. L'Académie l'a demandé au travers de la mise en place des hôtels pour accueillir les gens qui restaient contagieux mais qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Il y a effectivement aussi diminué la transmission du virus puisque les gens, même s'ils sortent beaucoup moins, et c'est tant mieux parce que ça a eu un effet, un impact très important sur l'épidémie. Il continue forcément à sortir pour quelques besoins absolument importants comme les courses. On l'a vu, il y a eu des images absolument effrayantes de foule compacte dans des moyens de transport. Il est évident que ceci refavorise la transmission. Pourquoi attendre que des gens continuent à s'infecter alors même que on a à notre disposition. On n'a pas tout, hein, c'est vrai, oui. On gère la pénurie. Mais
dire, professeur Crémieux, c'est que si on attend le 11 mai pour masquer toute la population, ça veut dire qu'on accepte encore des milliers de contaminations.
Mais c'est sûr.
Voilà, c'est ça, avec les masques.
Absolument.
Oui, c'est ça.
Quel sens ça? Je veux dire, on était bien sûr que quand on n'avait rien, quand on avait effectivement que quelques masques à distribuer au personnel soignant, ça avait un sens de dire on ne donne pas des masques à la population. Mais aujourd'hui qu'on peut avoir des masques, y compris des masques en tissu, quel sens ça a de retarder une mesure dont on sait qu'elle peut nous aider à diminuer la transmission? Voilà ce que dit l'Académie.
Mais parce que vous voulez dire que le problème des masques, donc vous l'avez dit, on n'est pas encore au top, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas avoir un masque chirurgical ou plusieurs, hein, parce que d'ailleurs un seul, on ne va pas loin avec ça. Ça veut dire que les masques en tissu, comme vous venez de le dire, et même un petit foulard sur le nez pour sortir déjà, ça serait bien ou ça, c'est pas suffisant?
Écoutez, le mieux c'est le masque chirurgical, soyons clairs. Puisque on n'a pas des masques chirurgicaux pour tout le monde, eh bien, ce sont les masques en tissu. Ça a été abondamment dit depuis 10 jours. On sait qu'il y en a déjà, qu'on peut déjà s'en procurer. Et il ne faut pas attendre d'avoir tout pour démarrer une mesure dont on sait qu'elle est efficace. Voilà ce que dit l'Académie. Elle dit aussi que toute toute personne pour laquelle on aura permis qu'elle ne soit pas infectée, c'est une mini-victoire de gagner pour le jour du déconfinement.
Évidemment. Alors justement, ici à Europe 1, professeur Crémieux, on reçoit beaucoup de questions d'auditeurs sur notre répondeur, le 3921. On va écouter celle d'une auditrice, on va essayer de lui apporter une réponse juste après. On l'écoute.
Je souhaitais poser une question par rapport aux masques lavables dont on va pouvoir disposer. On nous dit de les laver à 60 degrés pendant 30 minutes. Et si les gens n'ont qu'un ou deux masques, on ne va pas pouvoir faire des lessives uniquement pour laver les masques. Et on ne peut pas non plus les mélanger avec le reste de la lessive pour qui risquerait de contaminer le reste du linge. Donc je voulais savoir s'il y avait d'autres méthodes de nettoyer ces masques correctement. Merci.
Bon, c'est une question très pratique, professeur Crémieux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on
Écoutez,
peut répondre.
On peut y répondre parce que, en fait, mettre un masque à 60 degrés avec d'autres vêtements, de toute façon, lorsque l'on sort les vêtements de sa machine, rien n'est plus contaminé. Donc, on peut tout à fait mettre le masque avec d'autres vêtements, même si c'est pas dit comme ça. Ça a une certaine logique. À 60 degrés, le virus est tué. Donc, par conséquent, avec la lessive, par conséquent, bon, on fait ce qu'on peut. Je veux dire, mais effectivement, faut pas porter des masques qui seraient salis, qui seraient sales.
Jimmy Mohamed, vous êtes avec nous aussi en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour. Professeur Crémieux, l'Académie de médecine dont vous faites partie a également rendu un avis sur l'utilisation probable d'outils numériques d'application de traçage de la population après le 11 mai pour détecter plus vite les nouveaux cas, tracer et prévenir les personnes contact. Est-ce que, selon vous, c'est un outil qui est très utile et est-ce que ça a été évalué quelque part déjà dans un autre pays ?
Bien sûr, ça a été évalué en Corée et en Chine, en particulier en Corée du Sud. C'est là où on a vu réellement le système fonctionner. Donc c'est pas une innovation. Pourquoi un système de traçage numérique ? Parce que aujourd'hui, on s'est aperçu que ce virus se transmet, mais que surtout lorsque il a été transmis à un contact proche, ce contact proche peut être infectieux, c'est-à-dire peut transmettre la maladie avant même d'avoir des symptômes. C'est pour ça que c'est extrêmement important de pouvoir joindre ce contact le plus rapidement possible.
Donc il infecte lui-même le moins de personnes possible.
Bien sûr. On pense aujourd'hui que dans cette phase pré-symptomatique, il y a 40% des contaminations qui se font. Vous imaginez l'urgence de tracer ces contacts, de leur dire de se mettre en quarantaine et de les tester avant qu'ils ressortent.
Et vous pensez que la population française est prête à accepter ce type de traçage ? Il y a déjà des craintes qui montent un peu dans la population ?
Je pense très sincèrement que les Français ont parfaitement compris la gravité de la situation. Ils ont vu mourir des gens, ils ont vu mourir leurs proches plus fragiles et plus âgés. Et on le voit bien, la façon dont le confinement a été accepté par la population était quelque chose de parfaitement imprévisible il y a seulement 2 mois. Donc oui, les gens ont une certaine intelligence de la situation et ils se rendent compte que effectivement, on ne combat pas ce nouveau virus avec des moyens du Moyen Âge.
Très rapidement, professeur Crémieux, aujourd'hui il a été question à l'Élysée, il y a une réunion pour la réouverture des restaurants. Certains parlent du 15 juin, en fait on n'a plus de date, hein, on l'aura d'ici 15 jours. Vous pensez que les restaurants, les cantines, rapidement, ce sont vraiment des lieux très à risque ?
Vous savez, vous pouvez répondre à cette question comme moi. À partir du moment où les gens se rapprochent, à partir du moment où les gens ont un contact proche, on estime qu'on parle de contact proche à moins d'un à deux mètres, et surtout, en plus, s'ils ne sont pas protégés par un masque, il y a un risque de transmission. Comme je vous l'ai dit, le problème de cette infection, c'est qu'on ne peut pas savoir qui est infecté et qui ne l'est pas, puisqu'il y a une proportion importante de gens qui ne présentent pas de symptômes.
Bien sûr.
Bon, donc, a priori, toute situation dans laquelle on peut être amené à être en proximité avec quelqu'un, même asymptomatique, est une situation où on prend un risque. Alors bien sûr, tout ça est une question, je dirais, de compromis. Mais le compromis, c'est aux politiques de le faire, c'est pas aux médecins.
Bien sûr. Merci professeur Crémieux, on n'en a pas terminé avec vous, on se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, son rendez-vous revient avec une émission toujours consacrée au coronavirus. Vous l'avez compris, l'infectiologue Anne-Claude Crémieux reste avec nous et avec elle, nous tenterons de répondre à certaines de vos questions, celles nombreuses que vous nous laissez au 39-21 sur le répondeur d'Europe 1. Les réponses à vos questions, c'est juste après. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h pour répondre à toutes les questions médicales que vous vous posez sur le coronavirus. Alors justement, pour nous aider à vous répondre, elle est toujours en ligne avec nous. Professeur Anne-Claude Crémieux, vous êtes infectiologue à l'hôpital Saint-Louis. Vous êtes également membre de l'Académie de médecine. Professeur Crémieux, arrêtons-nous un instant sur la question des tests. De nombreux auditeurs nous demandent, notamment sur le hashtag Radio Ouverte, pourquoi ils ne peuvent pas être testés. En gros, tout le monde a envie de savoir aujourd'hui s'il a déjà croisé le coronavirus, même avec une forme asymptomatique, vous avez dit qu'il y en avait beaucoup. Ça aurait du sens de tester tout le monde. Enfin, je ne sais même pas si on en est capable, mais bon.
Alors attention, on parle de tests différents. Il y a le test qui vise à diagnostic, c'est-à-dire voir si vous êtes porteur du virus. Ça, c'est ce qu'on appelle la PCR qu'on fait en général au niveau.
Je pense que les gens veulent surtout savoir s'ils sont immunisés, quoi. C'est ça, voilà. Surtout la question.
Et je pense que c'est de ça dont vous voulez parler. Il s'agit bien d'une sérologie qui vise à mesurer les anticorps dans le sang pour voir si on a rencontré le virus et probablement si on a des chances d'être immunisé. Alors, c'est finalement une question de très peu de temps. Aujourd'hui, ces tests sont en cours de validation parce qu'effectivement, il ne faut pas mettre commercialiser et mettre à la disposition des gens des tests qui donneraient des réponses erronées, mais ces tests vont être rapidement disponibles dans les laboratoires. Je dirais, il sera toujours temps de se faire tester quand ils seront là. Je veux dire, c'est pas une urgence absolue. Et ces tests seront effectivement disponibles pour les gens.
Docteur Jimmy Mohamed.
Oui, professeur, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont vraiment asymptomatiques et est-ce que ce pourcentage peut varier peut-être en fonction de l'âge avec des sujets, je sais pas, qui auraient entre 30 et 50 ans, comme notamment le sous-marin, le porte-avions Charles de Gaulle, où on a eu la moitié des gens qui sont asymptomatiques et peut-être que les plus âgés développent des maladies plus fréquemment, c'est-à-dire qu'ils ont des symptômes. Est-ce qu'on a une idée un petit peu de ce qui peut se passer?
Oui, alors ça, c'était vraiment, c'était, je dirais, la configuration qu'on imaginait, c'est-à-dire que au fond, les formes asymptomatiques étaient surtout des formes qu'on rencontrait chez les très jeunes, les enfants, et que plus l'âge augmentait, et moins on aurait de formes asymptomatiques. Or, on a eu effectivement la surprise de voir, et on voit qu'on apprend tous les jours, d'abord dans des enquêtes qui ont été faites à Washington dans des longs séjours, que même les sujets très âgés présentaient des formes asymptomatiques ou pré-symptomatiques, et du coup, effectivement, on s'aperçoit maintenant qu'on fait des tests en France dans les EHPAD, qu'effectivement c'est une vraie réalité. On estime cette fraction, je dirais, de personnes. Alors, je pense qu'il faut mettre asymptomatique et présymptomatique dans la même catégorie, parce que certains de ces personnes qu'on va dépister à un stade asymptomatique feront ultérieurement des symptômes. Mais si on prend le groupe des personnes à la fois qui resteront asymptomatiques et qui sont présymptomatiques, on arrive à des chiffres très importants de l'ordre de 30 à 50% selon les études.
Professeur Crémieux, une autre question qu'on nous pose souvent, pourquoi le nombre de décès chaque jour, certes, n'augmente plus, mais est stable et quand même très haut, environ 500 décès encore tous les jours. Pourquoi, alors qu'on est confiné, ce chiffre ne baisse pas drastiquement ?
Alors c'est normal qu'il y ait un retard, je dirais, entre le chiffre de nouvelles contaminations qui est celui qui va et de nouvelles hospitalisations qui est celui qui va baisser le plus vite parce qu'il reflète en réalité l'épidémie d'il y a 5 jours ou 7 jours puisque vous savez que la phase d'incubation est en général de l'ordre de 5 jours. Alors que les décès reflètent l'évolution de la maladie, une évolution qui peut être longue pour des patients qui ont pu passer en réanimation, on sait qu'ils peuvent rester des durées qui vont de l'ordre de 15 jours, voire même plus, et par conséquent il y a un décalage qui est bien connu. Ça c'est la première raison du décalage. La deuxième raison du décalage, je dirais, elle est plus technocratique, c'est le fait de remonter les décès. Et ça, c'est vrai qu'il y a un retard, on peut dire ça, un décalage, un retard entre le fait qu'un décès soit déclaré et le fait que le décès soit comptabilisé. C'est un vrai problème.
Et puis la différence avec les autres pays, elle n'est pas aussi peut-être qu'ils ne comptabilisent pas de la même façon que nous, aussi bien que nous aussi peut-être.
Alors, je pense que ça c'est une vision optimiste. Bon, il y a une vision moins optimiste qui est de dire que cette épidémie a fait des victimes de façon assez différentes selon les pays. Certains pays sont dans le groupe de tête, et puis d'autres, pour des raisons qu'il faudra analyser plus tard, parce que là, c'est pas fini, ont peut-être une mortalité différente qui peut tenir à la population ou à la gestion de l'épidémie.
Jimmy Mohamed.
Professeur Crémieux, on va prendre une nouvelle question qui nous a été laissée sur le répondeur d'Europe 1 au 3921, celle d'une auditrice qui s'interroge sur la persistance du coronavirus sur les surfaces. On l'écoute.
Est-ce qu'il y a des chercheurs qui cherchent le temps de vie du virus actif sur les différents types de surfaces? Par exemple, moi je prends les transports en commun, donc je voulais savoir comment le virus était vivant sur des plaques de métal dans le métro, sur le similive lourd que l'on peut trouver dans certains RER. Je trouve que c'est très inquiétant parce qu'on ne sait pas si c'est 30 minutes, une demi-heure, deux heures, un jour. Merci, à bientôt. Au revoir.
Professeur Crémieux, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette dame ?
Des études qu'on appelle in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, où on déposait du virus sur une surface et on voyait combien de temps il était capable de persister. Et ces études ont montré que la persistance du virus déposé comme ça sur une surface peut être longue, plusieurs heures sur certaines surfaces, comme par exemple les surfaces métalliques, mais voire plusieurs jours sur d'autres surfaces inertes. Alors, la vraie question, si vous voulez, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, le fait que ça reste sur une surface ne veut pas dire que c'est infectieux. Ça, aujourd'hui, on ne le sait pas. Néanmoins, toute la campagne qui a consisté à expliquer aux gens de se laver les mains quand ils rentraient chez eux ou de passer de solution hydroalcoolique, c'est justement à cause de cet inconnu.
Professeur Crémieux, une dernière question. On a beaucoup de personnes qui nous demandent si on a encore une chance avec l'été, les températures plus élevées, de voir un peu partir cette épidémie, s'éteindre toute seule. C'est possible encore ?
Alors écoutez, on espère tous, qu'il va y avoir un facteur saisonnier. C'est-à-dire que, effectivement, la chaleur va nous aider, mais on ne peut absolument pas l'affirmer.
Merci professeur Crémieux d'avoir été avec nous pour répondre à toutes ces questions que l'on se pose encore et merci d'avoir pris le temps de nous répondre.
Europe 1.
Dans un instant, nous nous intéresserons aux animaux domestiques. Nos animaux, surtout, sont-ils à risque vraiment d'être contaminés ou même de nous contaminer ? Nous ferons le point avec Gilles Salva. Il est directeur de la santé et du bien-être des animaux à l'agence sanitaire l'ANSES. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, nous accueillons par téléphone Gilles Salva. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la santé et du bien-être animal à l'ANSES, également directeur général recherche. Alors, à l'ANSES, vous avez réuni un groupe d'experts pour savoir si oui ou non, il y avait des transmissions du Covid-19 via les animaux domestiques. Quelle a été la réponse ? En tout cas, est-ce qu'ils peuvent nous contaminer ?
Alors, la première réponse, c'est que pour le moment, on n'a aucune preuve qu'ils peuvent nous contaminer et même on a plutôt des preuves qu'ils ne nous contaminent pas. Par contre, nous pouvons contaminer un certain nombre de nos animaux domestiques, mais en très très faible proportion. Pour vous donner un ordre d'idée, actuellement dans le monde, on a recensé 4 chats contaminés sur lesquels on a mis en évidence le virus, 2 aux États-Unis, 1 à Hong Kong et 1 en Belgique. Il y a des enquêtes qui ont été menées aussi en Chine, dans le foyer de Wuhan, où ils ont trouvé donc des chats qui avaient des traces de présence du virus dans leur système immunitaire, qui ont fait une réaction en fait au virus, de l'ordre de 14% des chats qui ont été enquêtés dans cette enquête et qui avaient été tous en contact avec des malades. Donc, pour le chat, on peut transmettre le virus au chat dans des circonstances exceptionnel, on va dire, quand on est malade et qu'on est en contact très direct et très étroit avec son chat. Donc, ce qu'on recommande dans notre avis, c'est de garder une distanciation avec son chat, comme on le fait avec les autres membres du foyer lorsqu'on est malade. Pour autant, pour le moment, on n'a pas vu de chats, par exemple, qui ont contaminé des personnes. Les autres animaux sensibles sont les furets et les hamsters, dans des modèles expérimentaux notamment. Des collègues chinois et allemands ont montré que le furet et le hamster pouvaient être réceptifs à ce virus. Et alors, il y a quelques furets domestiques en France, il faut le savoir.
Bah oui, oui, c'est ça, ouais, bien sûr.
C'est entre 60 et 150 000, on ne sait pas trop, parce que c'est pas toujours, ces animaux ne sont pas toujours déclarés. Mais
prudence quand on a ces animaux-là à la maison.
Prudence quand on a ces animaux. Quand on dit prudence, c'est garder une distanciation physique.
Oui, c'est comme, comme protégeons les de nous, alors.
Membres du foyer. Voilà, d'accord. Exactement.
Dis-moi, Mohamed.
Donc les furets, on a compris, très réceptifs. Un petit peu les chats, on ne sait pas trop, mais bon, ça a l'air d'être plutôt rassurant. Et qu'en est-il des chiens? Est-ce qu'ils sont moins à risque que les autres animaux?
Alors, les chiens sont beaucoup moins réceptifs. Il y a à la fois, alors on a deux chiens qui ont été contaminés à Hong Kong et qui ont fait, pour lesquels l'information a été diffusée, qui étaient pour l'un un très vieux chien, dont le loup de Poméranie qui avait 17 ans, et qui est mort quelques semaines après sa contamination, mais il n'est pas mort de sa contamination, il est mort d'une insuffisance rénale et d'une insuffisance cardiaque. C'était un vieux chien. Par contre, on a trouvé le virus sur les muqueuses du chien. Par contre, on n'a pas trouvé de virus infectieux, ce qui veut vraisemblablement dire que le chien est assez peu réceptif et ne multiplie pas le virus. Et des chercheurs chinois ont fait des expériences, ont inoculé le virus à des chiens et ont montré que les chiens étaient très peu réceptifs à ce virus et en tout cas ne risquaient pas de contaminer les humains.
D'accord, bon, on a compris, les chiens, ça va de ce côté-là. Quels sont les symptômes justement des animaux qui l'ont attrapé? Alors il y en a très peu qui ont été recensés jusque-là, mais qu'est-ce qui doit nous faire penser éventuellement, si nous-mêmes on a été malade, que notre animal a aussi peut-être le Covid?
Alors, chez les chiens, donc, ils sont très peu réceptifs, donc pas de symptômes, évidemment. Chez les quelques chats qui ont été recensés, les quatre chats qui ont été recensés dans le monde, c'est à mettre en comparaison des centaines de milliers de personnes qui ont été contaminées et symptomatiques, ces chats ont eu des symptômes respiratoires, essentiellement, avec des lésions de l'appareil respiratoire, les quatre chats qui ont été contaminés à ce jour ont guéri spontanément. Donc, c'est pas une maladie qui est très grave chez le chat. Et encore une fois, le chat n'est pas très fortement excréteur au point de constituer un risque pour l'homme.
Donc, plutôt rassurant pour les chats aussi. Dis-moi, Mohamed.
Mais du coup, si on contamine par exemple le furet, le chat, le chien, même si le chien on a compris que c'était moins réceptif, est-ce qu'il y a un risque de transmission du coup de l'animal vers l'homme ensuite, et puis ça pourrait permettre la propagation de l'épidémie, ou pas du tout, ça s'arrête avec les animaux qui sont récepteurs mais pas transmetteurs?
Les données qu'on a pour le moment, que ce soit les données expérimentales ou les données de transmission, enfin les données d'infection naturelle, d'animaux domestiques, montre que ces animaux sont ce qu'on appelle un cul-de-sac épidémiologique. Alors, c'est un terme pas très
joli. C'est clair, on comprend bien au moins.
pour dire que ces animaux peuvent héberger le virus, peuvent être malades, dans le cas des chats, pas de façon très très grave, mais peuvent être malades, mais par contre ne retransmettent pas le virus, alors, y compris à leurs congénères, alors, sauf dans un cas, pour dire tout, dans une expérimentation qui a été menée en Chine sur des jeunes chats de quelques mois qui ont été inoculés avec des doses massives de virus, il y a un des chats inoculés qui a pu transmettre par voie aérienne à un autre chat qui n'était pas inoculé ce virus, mais ça reste des circonstances de laboratoire très très exceptionnelles. Donc ce qu'on considère pour le moment par rapport aux données qu'on a, aux milliers, centaines de milliers de personnes qui ont été contaminées et qui ont, pour certaines, pour beaucoup d'entre elles, des chats ou des chiens à la maison, c'est que les animaux sont des cul-de-sac épidémiologiques pour ce virus, donc ne nous font pas prendre de risques.
Justement,
les protéger pour que...
J'allais le dire, justement, Gilles Salva, pour les personnes qui sont propriétaires donc d'animaux domestiques, c'est quoi aujourd'hui, pour terminer vraiment la consigne pour eux, pour protéger leurs animaux, finalement, s'ils sont eux-mêmes malades, hein?
La consigne, elle est très simple, c'est la même consigne que pour les autres membres du foyer, c'est de garder une distance quand on est malade avec son animal. Si on ne peut pas garder la distance et qu'on le caresse, parce que ce sont des animaux qui ont aussi besoin de nos caresses, on porte un masque, on se lave les mains avant de les caresser et après les avoir caressés. Alors pourquoi avant de les caresser? Eh bien pour que si on a du virus sur les mains, on enlève le virus avant de les caresser pour éviter d'en mettre sur leurs poils, parce que par contre le virus peut survivre quelques heures sur les poils, et le chien peut propager le virus à l'intérieur de la maison ou le chien par l'intermédiaire de ses poils, mais de la même façon que les poignées de porte, de la même façon que les surfaces sur lesquelles on pose les mains. Donc se laver les mains avant de caresser son animal,
et après.
Se laver les mains après. Toujours, mais ça, d'une manière générale, il faut se laver les mains après avoir caressé un animal.
Bien sûr, ce sont des règles d'hygiène de base, oui, évidemment.
C'est des règles d'hygiène de base, évidemment, puisqu'il y a aussi des bactéries sur les poils.
Évidemment. Merci beaucoup, Gilles Salva, d'avoir été avec nous. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci encore.
Je vous en prie.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Dans un instant, votre émission Santé revient et à présent, on va prendre soin de vous, particulièrement des femmes. Aujourd'hui, on va parler de cette alerte des cardiologues les concernant et de la façon de prendre soin de son cœur en ce moment, au féminin donc aujourd'hui, avec les conseils de la cardiologue Claire Mounier-Veillé. Mais avant ça, on va écouter un peu de musique, un duo très chouette aujourd'hui, c'est la chanteuse Angèle et Roméo Elvis. Ça s'appelle Tout oublié.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire. Je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire. Il faudrait tout oublier.
N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire. Il faudrait tout oublier. On joue. Mais là j'ai trop joué. Ce bonheur.
C'était un duo sur Europe 1, le frère et la sœur, Angèle et Roméo Elvis, Tout oublié.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Alors pour nous aider aujourd'hui à prendre soin de vous, on va accueillir en ligne tout de suite le professeur Claire Mounier-Veillé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cardiologue, chef de service à l'Institut Cœur-Poumon au CHRU de Lille. Alors, avant de parler avec vous des moyens de prendre soin de notre cœur de femme, c'est notre sujet du jour. Un mot sur cette alerte que vous lancez via le fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes, Women's Cardiovascular Health Care Foundation. Vous dites aux femmes, attention, même confinées, écoutez-vous.
Oui, alors les maladies cardiovasculaires tuent aujourd'hui 200 femmes par jour en France. Donc c'est énorme, c'est la première cause de mortalité chez elles. Elles sont moins bien dépistées, moins bien diagnostiquées et avec retard. Et c'est vrai qu'avec le confinement, elles sont exposées à plus de stress, à plus de tabagisme, à plus de sédentarité. Elles s'occupent de leur mari, de leurs enfants. Donc c'est compliqué pour elles. Et finalement, elles vont mettre leur santé un petit peu de côté pour s'occuper de l'urgence actuelle.
Qu'est-ce que vous craignez très concrètement pour les femmes, en particulier du côté cardiovasculaire en ce moment?
Alors pour les femmes, comme les symptômes sont plutôt atypiques chez elles. Elles sont plutôt, si par exemple c'est un infarctus du myocarde, elles vont être plutôt fatiguées, plutôt essoufflées, elles n'auront pas cette douleur thoracique typique qu'on peut voir chez les hommes. Et finalement, elles vont mettre ça sur le compte du stress, sur le compte « j'ai un petit peu mal à l'estomac, j'ai pris du poids, donc c'est pour ça que je suis plus essoufflée ». Donc, elles ne vont pas s'écouter. Ouais. Et finalement, ce que je crains, ce que nous craignons avec Agir pour le cœur des femmes, c'est qu'il y ait des pertes de change chez elles. C'est-à-dire qu'un infarctus, on a environ 3 heures maximum pour revasculariser une artère qui nourrit le cœur, la coronaire. Et si finalement ces femmes attendent ce que l'on voit aujourd'hui à l'hôpital, eh bien on va passer au stade de complication, voire au stade de mort à domicile.
Jimmy Mohamed.
Oui, parce que justement ça, vous l'avez un petit peu dit, mais vous l'avez vraiment constaté que les femmes consultent moins en cardiologie, elles sont moins aux urgences et qu'elles ont finalement peut-être peur du coronavirus. Vous avez vraiment des chiffres qui sont en baisse ?
Alors à l'hôpital, que ce soit les femmes ou les hommes, on a à peu près moins 60% d'hospitalisation. Aux soins intensifs cardio, également en hospitalisation conventionnelle de mon service, puis en consultation, on a annulé toutes les consultations programmées. Mais depuis cette semaine, début de semaine, on voit arriver des urgences cardiologiques très graves, des formes par exemple d'infarctus qu'on ne voyait plus.
Ouais. Les femmes qui ont attendu jusque-là en fait, c'est ça. Alors, on recommence un petit peu à consulter, mais oui.
Non, c'est surtout les hommes qui viennent. Les femmes, on n'en a pas beaucoup aux soins intensifs. On a surtout des hommes. C'est environ 80% d'hommes et même pas 20% de femmes.
Et c'est pas normal du tout, on est d'accord.
Ouais. Non, c'est pas normal du tout. Les femmes ne consultent pas, attendent le dernier moment où c'est vraiment où on a des femmes âgées. Mais on a très peu de femmes de moins de 54 ans hospitalisées actuellement pour une prise en charge cardiovasculaire.
Mais elles sont passées où ces femmes ? Parce que quand on est en train de faire un infarctus chez soi, c'est-à-dire qu'elles sont décédées à leur domicile malheureusement. Enfin, c'est terrible de penser ça, on va faire le compte à la fin de l'épidémie. Enfin, c'est incroyable. Alors, quand même. On ne peut pas rester chez soi avec des symptômes d'infarctus quand même.
Alors comme les symptômes d'infarctus chez la femme sont très particuliers, c'est pas la douleur thoracique qui serre très fort dans la mâchoire, dans le bras, dans le thorax, ça peut passer inaperçu. Donc déjà, on a un certain nombre de femmes qu'on diagnostique au stade de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire quand le cœur, qui est un muscle, n'arrive pas à se contracter correctement. Mais là, ces femmes, en fait, elles ont des formes d'infarctus qui évoluent à bas bruit par rapport à un infarctus d'homme. C'est-à-dire que ce n'est pas une artère coronaire qui se bouche. Elle peut se boucher, bien évidemment. Mais le plus souvent, c'est des petites lésions qui font des ruptures de plaques, des petites dissections, puis ça se recolle. Donc ça va évoluer à bas bruit. Et au moment où elles vont se dire vraiment ça ne va pas, on va se rendre compte qu'elles ne sont même pas. On ne peut pas les revasculariser, par exemple.
On peut rester comme ça avec le cœur qui s'abîme de jour en jour. Et puis ça, c'est jusqu'à la grande, grande catastrophe. Docteur Jimmy
Mohamed. Grande catastrophe, oui.
Du coup, vous l'avez un petit peu dit, les symptômes d'infarctus chez la femme ne sont pas les mêmes que ceux chez l'homme. Est-ce que vous pouvez justement nous dire quels sont les signes qui devraient alarmer certaines femmes et les pousser à consulter ?
Alors les signes les plus qui nous alertent le plus, c'est l'essoufflement à l'effort. Par exemple, ces femmes confinées qui vont quand même s'occuper de la vie de la maison. Ben, si d'habitude on fait son ménage à la maison sans être essoufflé du tout et puis que brutalement on est fatigué pour le faire, on n'a plus envie de le faire, c'est aussi cette fatigabilité, cette angoisse. Alors l'angoisse est un très bon symptôme également chez la femme. Ça peut être aussi des symptômes digestifs, hein, des douleurs au niveau de l'estomac, au niveau de, on a l'impression qu'on a du mal à digérer. Donc ces symptômes-là, c'est pas toutes les femmes, heureusement, c'est essentiellement des femmes qui sont fumeuses. C'est le premier facteur de risque chez les femmes, des femmes qui sont stressées, des femmes qui sont en isolement social, des femmes précaires, des femmes qui sont diabétiques ou qui ont encore de l'hypertension artérielle. Donc ce n'est pas non plus n'importe quelle femme qui va faire un infarctus du myocarde. Il ne faut pas affoler nos auditeurs non plus.
Et le stress vraiment qu'on vit tous en ce moment, alors là il y a certaines femmes qui télétravaillent, vous le disiez tout à l'heure, qui s'occupent de la maison, on a tous les repas à préparer, il y a des hommes qui le font aussi bien évidemment, mais les femmes ont souvent cette charge mentale supplémentaire. Ce stress-là, il est vraiment mauvais pour notre cœur en ce moment, même si on n'a pas forcément de facteurs de risque d'habitude ?
Alors le stress, d'une manière générale, c'est le troisième facteur de risque de l'infarctus du myocarde. Parce qu'il active le système nerveux, qu'on appelle le système nerveux sympathique, mais qui n'est pas sympathique du tout, et qui finalement va favoriser des ruptures de plaques de cholestérol qu'on a dans nos artères. Le stress aujourd'hui, c'est vrai qu'il a pris le pas sur beaucoup d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, et l'isolement social, la précarité financière, hein, puisqu'on a des gens aussi qui ont des problèmes financiers actuellement, va prendre le pas sur d'autres facteurs de risque plus classiques comme l'hypercholestérolémie, le trop de cholestérol. Mais tabac plus stress, c'est vrai que chez la femme, surtout si elle a en plus une contraception avec œstrogène de synthèse, ça vous fait un cocktail absolument explosif pour faire un accident cardiaque.
Oui, c'est incroyable. Merci beaucoup.
Mais pas que l'infarctus. Hein.
Ah oui,
on a également des. Il y a également, je vois dans le service, on a fait hospitaliser deux femmes pour des troubles du rythme cardiaque, parce que ce stress va également entraîner des troubles du rythme rapide, le cœur qui bat beaucoup trop vite et parfois de façon irrégulière, avec un risque d'accident vasculaire cérébral. Donc c'est pas que l'infarctus, c'est également des troubles du rythme cardiaque.
Merci Claire Mounet-Veillé, on n'en a pas terminé avec vous, on se retrouve dans quelques minutes.
Europe.
Dans un instant, avec Claire Mounier-Veillé, nous allons passer à des choses plus concrètes. Pourquoi notre cœur de femme ne fonctionne pas tout à fait de la même façon que celui des hommes? Comment en prendre soin justement au féminin et encore plus en cette période de confinement? Quels sont les aspects de la prévention cardiovasculaire sur lesquels nous devons rester vigilantes? On en parle juste après. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors, elle est toujours en ligne avec nous, le professeur Claire Mounier-Veillé. Vous êtes chef de service à l'Institut Cœur-Poumon du CHRU de Lille et cofondatrice d'Agir pour le cœur des femmes. Claire Mounier-Veillé, d'abord, qu'est-ce qu'il a de si particulier le cœur des femmes par rapport à celui des hommes? Est-ce que c'est physiologique ou même est-ce qu'il ne fonctionne pas pareil tout à fait?
Alors, le cœur des femmes est plus petit que celui des hommes. Et effectivement, il est également soumis à l'imprégnation hormonale, la grossesse, la contraception, la ménopause. Et ça, il a également une grande sensibilité aux facteurs de risque classiques qu'on connaît, dont on a déjà parlé tout à l'heure, le tabac, le cholestérol, le stress par exemple. Mais également, il est très sensible à l'hygiène de vie tout à fait favorable. Donc voilà, donc c'est les particularités de ce cœur de femme.
Jimmy ?
Et donc vous dites justement que le cœur des femmes est plus sensible en quelque sorte au stress. Alors c'est vrai qu'en cette période de confinement c'est compliqué. Qu'est-ce que vous leur conseillez pour essayer de limiter un petit peu le niveau de stress en ce moment?
Alors limiter le niveau de stress, déjà c'est se prendre le temps de s'occuper de soi. Je pense que c'est important que ces femmes qui s'occupent de leur télétravail, de leurs enfants, de leur mari, puissent aussi se garder du temps pour elles dans la journée. Ça, pour moi ça me paraît essentiel. Et notamment, c'est au moment de, après le repas, c'est aller dans sa chambre, se reposer un quart d'heure, 20 minutes, faire une petite sieste. Ben ça, c'est déjà un moyen pour se détendre.
Après, la sieste, c'est toutes les techniques. Bon pour le cœur.
Ah, la sieste, c'est excellent pour le cœur.
Bon, très bien.
Ben oui, parce que je la pratique moi-même. Donc,
Si vous le faites, alors on sait que ça doit être bon, on est d'accord.
Alors après, c'est également tout ce qui est cohérence cardiaque. Donc c'est un terme qui est à la mode, mais on a des petites applications comme Respirelax, où il y a également des... On peut télécharger des applications avec le yoga. Donc utiliser la respiration lente pour finalement mettre au repos ce système nerveux sympathique et favoriser finalement l'impact de la relaxation sur la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la sensation de bien-être. C'est également bien manger. Donc, on a le temps de cuisiner. Donc, c'est cuisiner, si possible, avec le moins de sel possible, avec des légumes verts, avec des fruits. Voilà, prendre le temps de manger aussi, parce qu'on n'est plus autant à la bourre qu'avant. Donc, prendre le temps de manger. Et puis, l'activité physique est essentielle. Là aussi,
on y reviendra après.
L'activité physique. Voilà.
Claire Mounier-Veillé, j'imagine par contre qu'on parle du cœur des femmes aujourd'hui. On parle de prendre soin du cœur des femmes qui nous écoutent. Les femmes, elles n'ont pas toutes. J'imagine qu'il y a des particularités quand même en fonction de l'âge. Une jeune femme de 15 ans, pas les mêmes risques qu'une femme de ménopausée, par exemple. Lesquelles doivent faire plus attention à leur cœur? J'imagine que la ménopause, c'est quand même une période cruciale, non?
Alors, la ménopause, effectivement, est une période cruciale. C'est-à-dire que les 5 ans avant l'arrêt des règles et puis après les 5 années qui suivent l'arrêt des règles sont effectivement une période charnière où il faut dépister ces femmes. C'est pour ça qu'on a mis en place avec le fonds de dotation une consultation de la femme de 50 ans. Donc, pour dépister les facteurs de risque, évaluer s'il y a ou pas des symptômes d'alerte cardiovasculaire dont on a parlé tout à l'heure et faire le bilan adapté. L'autre période clé, c'est également la première contraception ou le renouvellement, parce que ces femmes peuvent avoir aussi un profil qui contre-indique la poursuite d'une contraception avec des œstrogènes. La contraception avec progestérone n'est absolument pas contre-indiquée. Puis il y a certaines grossesses, puisqu'on a des grossesses aujourd'hui de plus en plus tardives, qui sont plus compliquées, qui se compliquent plus facilement d'hypertension ou de diabète pendant la grossesse. Donc finalement, ce sont ces trois phases clés hormonales qui font qu'on doit être en alerte et on doit éduquer nos femmes sur leur santé cardiovasculaire, sur ces trois phases clés. Et c'est l'objet également de Agir pour le cœur des femmes.
Ouais. Jimmy Mohamed ?
Vous parlez un petit peu de contraception et que certaines étaient contre-indiquées. Est-ce que, justement, dans le profil de patientes qui seraient migraineuses, elles doivent faire un peu plus attention à leur santé cardiovasculaire ?
Vous avez parfaitement raison de souligner ce point. La migraine traduit en fait des artères qui sont un petit peu plus toniques qui font tendance à se spasmer. C'est souvent associé aussi à la sensation de main blanche au froid. Hein. Et ces femmes-là, effectivement, les migraineuses, et surtout celles qui fument aussi, ne doivent pas prendre d'œstrogène de synthèse. Ça, c'est très important, votre question, parce que vous allez sauver des vies.
Il faut éviter.
Vous avez sauvé plein de vies, là. Parce que les œstrogènes de synthèse favorisent l'accident vasculaire cérébral et parfois l'infarctus du myocarde. Il faut quand même savoir la bonne nouvelle, quand même, parce qu'on dit des choses qui peuvent faire peur. Mais
bah oui, ça fait très peur. Là, je me dis que toutes celles qui sont migraineuses, qui prennent de la contraception, là, on est d'accord, c'est pas à coup sûr un infarctus ou je ne sais quoi.
Non,
c'est que ces femmes-là, il faut qu'elles s'écoutent et qu'elles consultent évidemment un cardiologue si elles ont le moindre signe. On est d'accord, c'est ça qu'on dit. Hein, c'est pas attention,
c'est ça,
vous allez tout finir à l'hôpital.
Les... Oui. Tout à fait. C'est aussi éduquer les femmes sur leurs antécédents. Quand elles vont voir leur gynéco ou leur médecin traitant, elles connaissent leur dossier médical. C'est plus l'apanage du médecin. La femme, elle doit se prendre en charge. Aujourd'hui,
bien
on est
sûr.
Dans une médecine de prévention. Et la bonne nouvelle, dont on n'a pas encore parlé, mais c'est que dans 8 cas sur 10, les accidents cardiovasculaires sont évitables quand même, avec une prévention active, avec les bonnes informations, avec un maillage sociétal où on met ensemble finalement les citoyens et puis les professionnels de santé autour de ces femmes. Là, on va sauver des vies tous ensemble.
Alors justement, aujourd'hui, on parle de prévention, de bien-être et pour éviter tous ces accidents dont on a parlé juste avant. Claire, vous disiez, donc les fumeuses, évidemment, on se doute, elles ont un risque supplémentaire cardiovasculaire, mais bon, elles vont peut-être pas arriver toutes à arrêter de fumer pendant ce confinement. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller, en tout cas, aux fumeuses, pour limiter les dégâts? Je sais que ça serait mieux d'arrêter, mais au moins de pas augmenter la dose avec le stress et le confinement, c'est ça?
Alors, si je vous disais ce que je leur conseille, déjà de regarder si la cigarette est vraiment utile, parce qu'il y en a beaucoup qui sont mécaniques. On a le paquet à côté, on la prend, c'est un geste automatique. Donc de garder finalement, dans cette période de confinement où le sevrage est plus compliqué, que les cigarettes absolument indispensables. Encore, elles devraient complètement arrêter, mais entre IFO et Yaka, c'est difficile. Alors après, je leur recommande d'acheter des micro-choupa-choups. Vous savez, les toutes petites sucettes rondes, hyper compliquées à défaire, parce que l'envie de fumer dure 1 à 3 minutes. Et aller dépioter une micro-sucette ronde, ça va vous prendre environ 1 à 3 minutes. Donc l'envie
passe. D'ici là, on n'a plus envie de fumer. Voilà,
voilà,
c'est ça.
Exactement.
C'est pas mal comme astuce, ça, c'est très bien.
Voilà, vous avez un petit plaisir sucré qui fait que voilà.
En plus, super. La choupa choupa à la fin pour la verrez la récompense. Jimmy.
Et vous l'avez souligné tout à l'heure, le fait de garder une activité physique, ça reste important, même si en ce moment, c'est compliqué. C'est quoi le minimum pour protéger son cœur en ce moment?
C'est au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Mais l'activité physique, c'est pas forcément aller en salle ou avec une machine. Faire son ménage, c'est déjà de l'activité physique. Monter les escaliers, c'est de l'activité physique, vous voyez. Et vous avez également des tutos. J'ai vu que Decathlon faisait également, pendant tout le mois d'avril, mettait à disposition des tutos pour que les gens puissent faire de l'activité physique à la maison, de la gymnastique à la maison, avec des tutos internet.
Donc mais au moins sinon, 30 minutes par jour,
voilà, c'est au moins 30
comme d'habitude,
minutes par
alors,
jour.
Finalement.
Alors,
ouais.
Et il y a beaucoup de Françaises qui ont des vélos d'appartement, des tapis de marche, qui servent de porte-manteau.
Temps de les dépoussiérer.
Là, c'est bien de le reprendre, mais quand on n'a plus l'habitude, il faut y aller tout doucement. Mais c'est par rapport à l'activité physique et à l'actualité Covid, il faut faire attention quand on a eu pas mal de fièvre à cause du Covid. Eh bien, pendant 8 jours, là, il faut éviter de faire toute activité physique soutenue. C'est important. Mmh. Cette information est importante parce que le cœur est très sensible à la fièvre. Et finalement, quand on a eu toute grippe, hein, tout épisode grippal, plus de 38 de fièvre, eh bien pendant 8 jours, on évite de faire une activité physique soutenue. On peut marcher, bien évidemment, monter des escaliers, mais pas de,
mais
pas de sport.
Attention à son cœur en sortie de Covid, même léger. Merci beaucoup, professeur Claire Mouniveillé, d'avoir été avec nous pour
merci,
ce point
Mélanie.
Très important sur le cœur des femmes. Mmh. Mesdames,
merci,
donc
Gignosi.
Restez bien attentives aux symptômes. Vous l'avez compris, l'épidémie n'a pas arrêté les problèmes cardiovasculaires. Merci encore, Claire.
Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Dans un instant, ce sera la chronique sexo de Catherine Blanc qui va nous parler un petit peu d'éducation sexuelle pour nos adolescents aujourd'hui. Mais d'abord, on va écouter un peu de musique. C'est Earth, Wind, Fire. Ça s'appelle September.
We're dancing.
ce tube mythique du groupe Earth, Wind & Fire. Je rappelle le titre, c'est September.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, elle entre en scène tout de suite, c'est Catherine Blanc en ligne avec nous. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste. Ouais, vous avez vu, je vous ai fait un petit tapis rouge aujourd'hui, c'est vendredi, alors on est content.
Ah, j'aime bien, c'est la fête, voilà.
Bonjour, alors Catherine, vous allez bien? On s'est dit bonjour, du coup ça y est, c'est fait.
Oui, je vais bien. Bon, et pas seulement bien. Parce que c'est vendredi, je vais bien.
Non, mais voilà. On est content tous les jours, hein, de toute façon. Alors Catherine, aujourd'hui on va prendre la question de Corinne. Corinne, elle nous a écrit ce que je vais vous lire tout de suite. J'ai deux adolescents, un de 13 ans, l'autre de 16 ans, qui a une petite copine. Je pense que comme toute maman, je m'inquiète, mais j'aimerais savoir s'il ne fallait pas profiter du confinement pour parler éducation sexuelle avec eux. Qu'en pensez-vous? Alors Catherine, on va aller droit au but. C'est vrai qu'on a pas mal de temps disponible en ce moment avec le confinement. Est-ce que c'est le bon moment quand on a des ados? Moi, c'est pas mon cas, donc je sais pas trop, mais pour faire un petit cours de sexualité, d'éducation sexuelle avec ces ados.
En fait, ce n'est pas le bon moment dans le sens où les adolescents sont dans la découverte de leurs pulsions, dans leur découverte de la sexualité projetée ou à l'ordre du jour dans les premiers émois, et tout d'un coup se retrouver enfermés avec les parents est source potentiellement d'inquiétude, puisque toujours la peur de l'adolescent, c'est que cela puisse concerner le parent, puisque son premier élan amoureux a été pour ses parents, et la peur, c'est que la sexualité se porte sur eux. Donc, ce n'est naturellement pas le bon moment. Toutefois, c'est un moment où on se rencontre, où on a plus de temps pour déjeuner ensemble, pour échanger sur des tas de sujets, regarder peut-être des films ensemble, peut-être l'occasion d'en débattre, et que à ces occasions, ces déjeuners sur tout et n'importe quoi, et peut-être sur la petite copine ou le petit copain que l'on n'a pas vu depuis longtemps, on peut se poser des questions, on peut ouvrir les débats, et là, ça devient quelque chose intéressant. D'accord, mais ce n'est pas parce que nous sommes confinés qu'on va sortir
le tableau blanc là et on va dire voilà. Alors, voilà, ça c'est ça, non on commence pas ça.
Exactement. Bon, elle dit quand même qu'ils sont inquiètes.
Ouais. Mais elle dit qu'ils ont 13 et 16 ans, donc ils ont 13 et 16 ans, c'est un âge où ils découvrent la sexualité de toute façon, ça c'est sûr.
Bien sûr, il la découvre, il l'envisage, il la découvre, évidemment, heureusement, malheureusement, par tous les moyens aujourd'hui Internet qui sont sur leur téléphone, qu'ils en aient la curiosité, qu'ils soient contraints par les copains ou les copines. Donc, en fait, c'est vrai que c'est dans leur environnement, pas toujours avec leur disponibilité émotionnelle, parfois un peu contraint par la masse. Donc, il n'est pas question que les parents participent de ça. Mais comme, évidemment, le groupe des copains manque, des copines, on peut peut-être parler de ses amoureux, ses amoureuses, que les parents ne soient pas trop lourds en disant alors, tu m'as pas parlé, t'as un amoureux, t'as une amoureuse, ce qui est très envahissant puisque l'enfant est tout à sa
pudeur. On va pas les coincer non plus parce qu'on est confiné, on est d'accord.
Jimmy
Mohamed.
Oui, parce que en plus la gêne finalement elle peut être des deux côtés, et si on veut, parce qu'au bout d'un moment faut passer le cap, comment est-ce qu'on fait pour surmonter justement ce premier cas difficile d'aborder la sexualité avec des enfants?
Donc de la pudeur du parent. Comment le parent dépasse sa propre pudeur, parce que évidemment que l'âge alerte, donc attention, n'envahissons pas nos parents, il n'est pas question que cette alerte soit entendue comme la nécessité d'une pudeur extrême réveillant ceux qui sont déjà très pudiques et très très interdits sur le sujet, parce que pour le parent aussi c'est compliqué de partager avec l'enfant les sujets de la sexualité, puisque c'est déjà parler de sa propre sexualité, quand bien même on n'en parle pas, le fait d'aborder le sujet révèle qu'on a de soi-même une sexualité. Donc c'est d'abord toujours ouvrir la porte en posant des questions, à savoir, as-tu des questions? Est-ce qu'il y a des sujets qui font...
S'il en a, on y va.
Voilà, néanmoins, c'est pour ça que je disais que les films peuvent être un bon appui, parce qu'il y a des histoires, des histoires sur lesquelles nous pouvons débattre, sans parler de nous, en quelque sorte.
Bien sûr. Mais Catherine, je me demandais, puisque, bon, imaginons, il y a aussi des adolescents qui sont à l'aise et qui ne vont pas hésiter à poser des questions à leurs parents. Est-ce que c'est le moment, éventuellement, de leur parler des maladies sexuellement transmissibles? On est quand même en pleine période d'épidémie, on va peut-être pas les angoisser un peu plus avec le VIH, avec toutes les IST qui existent. C'est peut-être pas le moment de parler de ça, non?
Oui, non, je crois que là, franchement, la barque est pleine. Hein, je crois qu'on a suffisamment alimenté l'anxiété et la peur de l'autre et la peur de la contagion que représente l'autre. Donc, c'est plutôt évoqué, bien évidemment, la question du désir individuel, de son désir à soi et la légitimité de ce désir et le temps à lui accorder pour que justement se fasse la paix de l'adolescent quand il rentrera dans le champ de la sexualité. Et plus un adolescent est en paix, moins il fait n'importe quoi. Donc je crois que ce n'est pas en faisant peur aux gens qu'on les aide à se protéger. Au contraire, on suscite pour les uns l'enfermement et l'inhibition, pour les autres, même pas peur, et du coup la posture autodestructrice et de bravade qui, elle, est dangereuse.
Donc c'est pas le moment, effectivement. En plus, l'épidémie, ça peut les angoisser aux ados aussi, hein, particulièrement, on est d'accord.
Bien sûr, ben oui, il y aura des baisers à échanger, des salives à échanger. On sait très bien que la salive, elle est contenante de moult bactéries, et heureusement, puisqu'elle fait partie de notre système de défense. La question n'est évidemment pas par des bactéries, contagion, contamination, sauvegarde. Ça va être plutôt dans l'ouverture, mais toujours une ouverture qui est dans le respect de soi, plutôt que de parler du respect des distances nécessaires, c'est plutôt le respect de soi et de son rythme.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci Jimmy. On se retrouve bien sûr dès lundi à 15h. Voilà, c'est la fin de cette émission. Continuez à nous envoyer vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, qui seront reversés à l'Institut Pasteur. À présent, je vous laisse avec Mathieu Noël et son équipe Sauvage. Bonjour Mathieu.